Europe Matin,
le 5-7.
Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite, votre journal sur Europe 1. Bonjour Émilie Dez.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Bienvenue à tous, il est précisément 6h.
Elle feutrait dans sa maison et elle fermait les volets. Elle avait peur, oui. Et on l'avait dit, un jour on aura un drame. Et voilà, ça y est, il est arrivé.
Mérignac sous le choc après l'assassinat d'une jeune femme de 31 ans tuée par son ex-compagnon. Quelques 300 personnes, amies, voisines ou militantes se sont rassemblées hier pour lui rendre hommage. Un peu d'optimisme avec les chiffres de l'épidémie. Les voyants sont à nouveau au vert, même s'il faut rester prudent à quelques jours de la deuxième étape du déconfinement. La philo et le grand oral seront maintenus mais aménagés. Jean-Michel Blanquer a détaillé hier les assouplissements prévus pour les épreuves du bac cette année. Et puis Olivier Dubois appelle les autorités françaises à tout faire pour le libérer. Le journaliste français a été enlevé au Mali par un groupe proche d'Al-Qaïda.
À suivre les sports et puis mon invité inattendu sera un grand fan de Michel Sardou. Sardou qui sort aujourd'hui son autobiographie. Je ne suis pas mort, je dors. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'émotion est encore forte à Mérignac, deux jours après l'assassinat d'une jeune femme de 31 ans brûlée vive par son ex-compagnon. Il lui a d'abord tiré dans les jambes avant de l'asperger d'essence. Près de 300 personnes, amies et militantes, se sont rassemblées hier près des lieux du drame. Marion Dubreuil, le suspect de 44 ans, était connu pour violence conjugale.
Oui, il avait même été condamné à 1 an et demi de prison, dont 9 mois ferme en juin dernier pour des violences sur son épouse. Il avait bénéficié dès septembre d'une mesure de placement spécifique pour les auteurs de violences conjugales. Et puis, il était sorti de détention au mois de décembre. Mais il était toujours suivi par l'administration pénitentiaire, soumis à une obligation de soins. Il avait interdiction d'entrer en contact avec la victime et interdiction de paraître à son domicile. Mais en mars dernier, il avait enfreint son sursis probatoire. Il avait retrouvé son ex-compagne dans une supérette près de chez elle, l'avait attrapée par le foulard et avait tenté de la faire monter de force dans sa voiture. Elle avait résisté et réussi à prendre la fuite avant d'aller déposer plainte. Suffisant pour renvoyer le suspect en prison. Une enquête avait bien été ouverte, mais le suspect n'a jamais répondu aux convocations et il ne se trouvait pas à l'adresse de sa sœur, qu'il avait communiqué à sa sortie de prison.
Marion Dubreuil pour Europe 1.
Émotion également à Avignon, où un policier a été tué hier lors d'une opération anti-drogue.
Il avait 36 ans et était père de 2 enfants. Le tireur est toujours activement recherché. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place dans la soirée. Il a rendu hommage aux policiers, je cite, « morts en héros pour nous protéger ». Le Premier ministre Jean Castex a promis que tout serait mis en œuvre pour que cet acte odieux ne reste pas impuni.
Du mieux sur le front de l'épidémie, avec un peu plus de 20 000 contaminations par jour. Tous les indicateurs de la pandémie sont au vert.
C'est bien moins que les plus de 50 000 cas quotidiens détectés entre fin mars et début avril, Victor Dolande.
Oui, la tendance est bonne au niveau national. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, est de 224 contre plus de 400 il y a à peine un mois. Le taux de reproduction, vous savez, c'est le nombre de personnes qu'un seul malade contamine. Il se situe aux alentours de 0,90 et quand il est en dessous de 1, ça veut dire que l'épidémie recule. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et cette baisse du nombre de contaminations commence à se voir dans les hôpitaux, selon l'épidémiologiste Mahmoud Zorek.
On observe déjà une baisse, certes, très lente de l'hospitalisation, mais elle est là. Mais je pense aussi que le nombre de décès et le nombre d'entrées en réanimation va suivre cette tendance.
Des indicateurs dans le vert qui poussent les épidémiologistes à un double constat. Oui, la troisième vague est bien derrière nous, mais attention au risque de rebond épidémique si les Français venaient à trop relâcher les gestes barrières, notamment à partir du 19 mai avec la réouverture des commerces non essentiels, les terrasses et les lieux de culture.
Victor Dolande pour Europe 1.
À un mois et demi du bac, Jean-Michel Blanquer a détaillé hier soir les aménagements prévus pour les épreuves.
Le grand oral est maintenu, mais les élèves pourront indiquer les points du programme qu'ils n'ont pas étudiés. Maintenu aussi l'épreuve de philo à une nuance près. C'est la meilleure des deux notes entre l'examen et le contrôle continu qui sera retenu. Une mesure juste pour Hubert Salahin, le porte-parole de la PEP, Fédération de parents d'élèves.
Bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle qui va enlever les inquiétudes au niveau des élèves. Hein, parce qu'effectivement, il y a des élèves qui ont eu un cours sur deux en présentiel depuis le début de l'année. La philosophie, c'est la première fois qu'on en fait, et puis il n'y a pas que le cours, il y a aussi le nombre de devoirs qui peuvent être faits. Et cette année, les professeurs n'ont pas forcément fait faire beaucoup de devoirs parce qu'il fallait du temps pour le programme, donc ça c'est une bonne nouvelle pour les élèves.
À l'inverse, pour Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du syndicat d'enseignants SNES-FSU, c'était la pire décision possible.
Cette annonce sur la philosophie, c'est certainement une des annonces les plus problématiques. Ça revient finalement à traiter avec beaucoup de désinvolture le travail des correcteurs de l'épreuve de philosophie, parce qu'ils vont finalement peut-être corriger pour pas grand-chose. Ça revient aussi à dévaloriser l'épreuve et peut-être à ouvrir la porte à quelques calculs stratégiques pour savoir s'il faut vraiment bien préparer l'épreuve de philosophie. Bref, c'est encore davantage aggraver les inégalités.
Des propos recueillis par Pierre Herbulot.
Une enquête antiterroriste a été ouverte après l'enlèvement d'un journaliste français au Mali.
Un collaborateur régulier du Point Afrique et du quotidien Libération, Olivier Dubois, est apparu hier dans une vidéo où il affirme être aux mains d'un groupe lié à Al-Qaïda. Le reporter, pourtant connaisseur de la région, semble être tombé dans un piège. Jean-Sébastien Soldaini.
C'est sous une autre identité qu'Olivier Dubois, alias Monsieur Bergam, réserve sa chambre dans un hôtel de Gao. Arrivé le 8 avril au matin, il prend son déjeuner et quitte l'établissement, laissant sur place un téléphone portable, son passeport et quelques habits. Au programme de sa journée, il y a une rencontre avec un des chefs djihadistes de la région pour une interview. Ses employeurs français l'ont pourtant dissuadé d'aller à cet entretien, tout comme ses collègues du journal du Mali, dirigé par Mamadou Camara.
Toutes ces personnes l'avaient découragé, connaissant les risques d'aller dans le nord du pays pour ce type de mission. Donc je pense qu'il était lui-même conscient des risques qu'il prenait, parce que il avait lui-même prévenu que s'il ne revenait pas avant telle date, ça voudrait dire qu'il est arrivé quelque chose, que c'est clairement un piège qui lui a été tendu.
Deux jours plus tard, l'alerte est donnée par le gérant de son hôtel. Un homme se présente au comptoir de l'établissement. Il rapporte des effets personnels d'Olivier Dubois et assure que le journaliste va revenir. Quelques heures après, coup de fil à la réception, un certain Souleymane conseille d'envoyer le sac du reporter à Bamako au motif qu'il aurait peut-être eu des problèmes.
Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1.
Allez, de la musique, il est à l'honneur aujourd'hui, à 74 ans. Michel Sardou fait un retour remarqué.
Le chanteur est partout. Son autobiographie sort aujourd'hui. Il sera dans une comédie musicale à la rentrée. Et puis une compilation de live vient de sortir, un livre qui décortique ses chansons. Angèle Châtelier l'a constaté, Michel Sardou est toujours dans le cœur des Français.
Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas faire sans Michel Sardou depuis 50 ans en fait.
Martin Guémara venait de naître quand Les Lacs du Connemara est sorti. Pourtant, aujourd'hui, il a créé un podcast Stockholm Sardou sur le chanteur, écouté par 10 000 personnes chaque mois.
Il a toujours su s'adapter à l'époque pour parler des sujets qui traversaient le moment. Dans les années 2000, il a arrêté et il s'est réinventé complètement en ressortant un album avec des artistes à la mode à l'époque, en s'incrustant dans la Starac, enfin, en faisant tout ce qu'il fallait pour être toujours présent dans l'esprit des gens.
Plus récemment, encore avec le film La famille Bélier, dans lequel Louane chante Je vole, ou le groupe d'enfants Kids United qui reprend ses classiques. Dans un album.
Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant.
Tout ça rajeunit son image pour Bertrand Bénisson, auteur d'une encyclopédie musicale sur Michel Sardou.
Moi je sens une évolution du discours à son égard, comme si c'était maintenant que l'on prenait conscience de qui il représente et que finalement il fait partie du patrimoine de la chanson française, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est populaire, il en est fier, il a raison. Quoi.
Et visiblement, il l'est toujours. Une compilation de chansons live, sortie la semaine dernière, est à la 4e place des albums les plus vendus en ce moment.
Quand on fait la jungle, le samedi à Broadway, ça suit comme un meudon. On défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais, quand on a des bonbons. C'est peut-être pas la voix de vrai, la Java de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît, elle est teintée de blues.
Michel Sardou qui traverse les générations. Voilà, avec des fans de tous âges. Alors, on va encore continuer à parler de Sardou dans quelques secondes parce que mon invité inattendu est un grand fan de Sardou. Que vous ne soupçonnez peut-être pas parce que vous le connaissez pour beaucoup d'autres choses. C'est un ancien d'Europe 1 d'ailleurs. Et vous allez voir qu'il est fan depuis tout petit. Il n'a pas raté un concert. Voilà.
Il en a fait plus d'une trentaine, je crois.
Plus d'une trentaine, exactement. Merci à vous, Émilie Day. C'était le journal. Il est 6h09.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Hélène Aïk-Monnier pour le journal des sports avec Chelsea qui rejoint Manchester City en finale de la Ligue des Champions.
2-0, score final hier soir face à un Real Madrid impuissant. Sur le fil depuis le début de la saison d'ailleurs, les Madrilènes ont payé des états de forme disparates et beaucoup d'absences. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu Zinedine Zidane hier soir tout en rendant un hommage sincère à son adversaire.
On a essayé, mais c'est vrai que Chelsea aujourd'hui a été supérieur. Et il faut féliciter cette équipe. J'aimerais aussi féliciter mes joueurs pour tout ce qu'ils ont fait cette année en Champions League. Ça n'a pas été facile et malheureusement, ça n'a pas été possible. Il nous a manqué quelque chose et ce soir, on a joué contre une équipe qui était meilleure que nous.
Une équipe qui a été meilleure.
Zinedine Zidane avec Henri de Laguérie pour Europe 1. Finale 100% anglaise donc entre Chelsea et Manchester City le 29 mai prochain. En Ligue Europa, les demi-finales se jouent ce soir. Manchester United, AS Rome et Arsenal, Villarreal.
Le foot toujours, mais en Corse cette fois. Là c'est Ajaccio, a rendu hommage à Napoléon.
Ajaccio, lieu de naissance de Napoléon. Et pour le dernier match de la saison à domicile, c'est samedi, les joueurs porteront un maillot collector fond noir pour symboliser la mort de Napoléon, rehaussé de fines rayures dorées pour représenter le règne impérial. Christian Lecal, le président de la Ajaccio, nous en dit plus.
On a décidé de faire un clin d'œil à Napoléon à travers le maillot noir et or et floqué à Ajaccio Ville Impériale. Vu la demande qu'on a pour obtenir un maillot collector, je pense que la demande va dépasser largement l'offre. Pour l'instant, ils ont été édités à 40 exemplaires. On fera sans doute une deuxième commande, mais on n'en fera pas 2000. Hein. À la fois la valeur financière et la valeur sentimentale du maillot seraient galvaudées si on en faisait 1000 ou 2000. Donc on va en faire un minimum pour essayer de satisfaire quelques demandes, mais pas la totalité, c'est clair.
Christian Lecal avec Axel May. Les maillots portés par les joueurs seront mis ensuite aux enchères sur le site internet du club.
Voilà, pour le maillot impérial de l'AC Ajaccio. On reparle à présent du retour du public dans les Grands Prix de Formule 1.
Oui, hier Monaco a bien confirmé une jauge de 7500 personnes par jour pour son Grand Prix le week-end du 22 mai. Seule condition pour ceux qui n'habitent pas sur le rocher, présenter un test PCR de moins de 72 heures. Le commissaire de l'Automobile Club de Monaco, Christian Tornator.
Le Grand Prix de Monaco, ça reste une institution. C'est quelque chose qui est une manifestation qui rapporte à la principauté et qui rapporte aussi à l'image de la principauté. Donc on ne veut pas que cette image soit détériorée. Donc il faut absolument qu'on respecte toutes les règles qui nous ont été fixées, que l'on appliquera, avec du personnel sans doute supplémentaire, parce qu'il faudra contrôler un petit peu plus au niveau des entrées de tribune, forcément.
Et puis Romain Grosjean lui revient en F1 cinq mois après son grave accident. À Bahreïn, il va remonter dans une monoplace le temps d'une démonstration. Ce sera l'occasion du Grand Prix de France le 27 juin sur le magnifique circuit Paul Ricard du Castellet.
Lénaïc Monnier, merci, il est 6h12.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1.